C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, l'escalier de la vérité nous fait découvrir qu'il y a plusieurs vérités. La nôtre et celle de Donald Trump. Trump est un personnage flamboyant et ses résidences reflètent la mégalomanie du propriétaire. À Palm Beach, son palais d'hiver compte 118 pièces. Il avait été auparavant la demeure de Marjorie Mary Weatherpost, femme d'affaires la plus riche du monde en son temps, patronne de General Food, collectionneuse d'art russe pré-révolutionnaire, détentrice du diadème de l'impératrice Marie-Louise, de diamants ayant appartenu à l'empereur Maximilien et à Napoléon Ier, et propriétaire du plus grand yacht privé de l'époque, le Sea Cloud. Bref, une égérie socialite auprès de laquelle Donald fait figure de parvenu. En 1986, le couple Trump est au fait de sa gloire. Il reçoit ses voisins de Palm Beach dans un décor où tout rappelle Marjorie Post, à l'exception d'une collection de cadres argentés contenant des couvertures de magazines arborant des photos de Donald. Ivana ambitionne de fonder une dynastie comparable aux vieilles familles du 19e siècle comme les Vanderbilt. Donald, lui, est sans illusion sur le dédain que lui manifeste la upper class new-yorkaise. En 1990, 4 ans plus tard, Trump est au bord de la faillite. Il s'installe dans un petit appartement de la Trump Tower, sommairement meublé, et passe des nuits à téléphoner en se faisant livrer par le fast-food du coin, tandis que son épouse habite le triplex. Trump Tower, un monument à la gloire du magnat, construit après un travail de démolition effectué par des migrants polonais sans papier, payé 5 fois moins que le salaire légal, la faute à un mauvais entrepreneur qui n'avait pas informé le boss de ce scandale. On est prié d'y croire. Haï par beaucoup qui se réjouissent de sa prochaine déconfiture, accroché qu'il est à hauteur de 600 millions de dollars, considéré par son fils comme un être n'aimant que l'argent, il connaît son chemin de Damas tandis qu'on plaint Ivana et qu'elle a les faveurs des tabloïds. Pourtant, ce battleur, qui considère tout dans la vie comme un deal, y compris les négociations politiques, ne s'avoue pas vaincu. Il a l'art de convaincre, de rendre intellectuellement possible n'importe quoi. Et quand Forbes prétend que Donald ne vaut pas plus de 500 millions, le presque failli rétorque que c'est 500 millions de plus que ce qu'il avait en débutant. Il estime que cette période de sa vie est passionnante puisqu'on le croit pauvre et que de ce fait, il négocie des contrats avantageux. Il retrouve le goût du défi, lui qui a toujours eu peur de s'ennuyer. Il adore les coups à l'esbrouf qui souvent lui réussissent, comme la fois où il déclara abandonner une forte commission sur le nouveau centre de convention, à la condition qu'il porte le nom de son père, ce qui fut fait, alors que la commission n'était mentionnée nulle part. Trump va encore une fois se sortir d'une situation sans issue malgré une montagne de dettes. Il a de qui tenir, son père Fred, un père qui fait son admiration, ayant toujours soigneusement caché les origines allemandes de la famille, afin de ne pas s'aliéner la communauté juive dans le business. Sûr de son génie, Donald a décidé de le transposer de l'immobilier vers les casinos et les compagnies aériennes, et il est au bord de la banqueroute, une nouvelle qui réjouit un chroniqueur du Daily News proposant de célébrer la bonne nouvelle par un jour férié. Ivana honore pendant ce temps une réception par sa présence car elle va lancer un parfum et le spectacle doit continuer car il lui faut à présent préparer son avenir de femme seule. Donald a commis des erreurs fatales comme ce casino d'Atlantic City, investissement aléatoire, effectué malgré les avertissements de ses bras droits qu'il n'avait pas écoutés, la présence de sa maîtresse Marla Maples dans cette ville ayant constitué le motif majeur d'y engloutir ses dollars. Le divorce sera sanglant et ruineux. Tous les coups seront permis de part et d'autre. Alors que Donald effectue un déplacement au Japon dans le but de tenter de revendre le Plaza, Ivana profite de ce déplacement pour faire publier en son absence des échos dans la presse de leur séparation et des orions échangés entre Ivana et Marla. Les enfants Trump souffrent énormément de la séparation, étant la cible de moqueries dans leurs écoles. Ivana réclame la moitié de la fortune de son mari, elle qui avait au début de leur mariage refusé de signer à la hausse le contrat prévoyant ses dédommagements en cas de séparation. Elle obtient 7 900 000 euros d'indemnité et 3,5 millions de dédommagements, une maison dans le Connecticut, un appartement et une belle pension pour les trois enfants. Une addition à 14 millions de dollars. Donald épouse sa maîtresse avant d'en divorcer en 1999, mais reste en bon terme avec Ivana, lui prêtant une maison pour son remariage, tandis qu'elle lui témoigne son soutien politique sans pour autant s'impliquer. Lorsqu'elle décédera, le 14 juillet 2022, à l'âge de 73 ans après une chute dans son appartement de Manhattan, elle est enterrée à proximité du premier trou d'un club de golf appartenant à la Trump Organization, là où Donald souhaite que reposent les membres de sa tribu. Sa troisième épouse, Melania Knaus, germanisée en Melania Knaus, née en avril 1970 en Slovénie, fait revenir en force les allusions à l'influence russe. Fille d'un gestionnaire de concessions automoto et d'une mère qui dessine des motifs pour un fabricant de vêtements d'enfants, elle défile en portant des tenues de la fabrique où travaille sa maman et ambitionne de devenir styliste. Le problème est que la suite de la success story de la petite Slovène est sujette à caution. Diplômée, paraît-il, en architecture, en ayant suivi au plus une année de cursus, se prétendant polyglotte alors qu'elle parle essentiellement slovène et anglais et n'a que des notions de français, d'italien et d'allemand, elle échoue lors d'un concours de mannequinat organisé en Slovénie en 92. Elle va travailler pour la marque Murat, puis à Milan et Paris, fait des couvertures de magazines, mais sa carrière est en retrait de celle des têtes d'affiches de l'époque. Elle rencontre Donald en 1998 au Kit Kat Club. Et lorsqu'il l'épouse en 2005, Bill et Hillary Clinton figurent parmi les invités. Son plagiat avéré du discours de Michelle Obama, son obstination lors du premier mandat Trump à séjourner avec sa famille dans la Trump Tower, ce qui coûtait une fortune aux contribuables américains finançant la sécurité de la première dame, tout cela aurait pu nuire au clan Trump, mais Melania, plutôt discrète dans sa fonction, ayant parlé en faveur de l'avortement et des migrants, joue le rôle de celle qui tempère son mari et y gagne en popularité malgré les rumeurs infondées qu'elle serait un agent russe placé au plus haut niveau.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Il serait injuste de ne pas terminer en beauté ce portrait d'un président atypique, sans évoquer deux événements qui lui restent liés. Le premier est la prise du Capitole par les Trumpistes qui déclencha une foule de commentaires dont certains sont savoureux au regard de déclarations récentes concernant la résolution de ne pas laisser l'AFD gagner en Allemagne ainsi que le saccage des élections roumaines par le camp du bien. Angela Merkel, oubliant que dans sa jeunesse elle avait fait partie de la Stasi, déclarait ainsi une règle fondamentale de la démocratie et qu'après les élections il y a des gagnants et des perdants. Tous deux ont leur rôle à jouer avec décence et responsabilité pour que la démocratie elle-même reste la gagnante. Le second événement est l'attentat qui visa Trump lors de sa deuxième campagne. Là, la sphère complotiste se déplaça vers le camp démocrate, où les frustrés du rachat de Twitter par le libertarien Musk partirent sur le réseau Threads de la galaxie Meta pour se répandre en fake news. Certains prétendirent que Trump n'avait pas été blessé et tentèrent de le prouver par un montage photographique où l'on voyait un sachet de ketchup Heinz dépassant de la poche du candidat. Puis, on prétendit qu'il ne s'agissait pas d'une balle mais d'un éclat de verre du prompteur touché par ladite balle qui avait blessé Donald, censé simuler des saignements avant que les deux médias se rétractent. Puis une internaute cria à l'escroquerie en publiant une photo de Trump avec l'oreille intacte, mais c'était une photo de 2022. Ensuite, on produisit deux photos du candidat jouant au golf le lendemain. Les républicains clamant que cela attestait de la vigueur d'un homme indestructible, les démocrates se gaussant du pseudo-attentat montage. Effectivement, Trump s'était bien rendu à son club de Bedminster, mais les pelouses n'étaient pas accessibles. Quant aux photos, l'une datée du 3 juillet 2024, l'autre du 12 septembre 2022. Ces tentatives de remettre en cause l'attentat sont le fait du mouvement Blue Anon, composé de partisans de Biden, aiguillonné par l'actrice Amanda Seales, déclarant qu'elle avait vécu assez longtemps à Harlem pour savoir distinguer un coup de feu d'un paquet de pop-corn qui explose, ajoutant qu'un homme qui se fait tirer dessus ne se relève pas en brandissant le poing avec énergie, le geste qui a galvanisé les Américains et conduit Donald au fauteuil présidentiel. Une Amérique au bord de la guerre civile, telle est la patrie de l'oncle Sam, géant interventionniste au pied d'argile. Par un curieux retour de balancier, le pays qui a fomenté des troubles dans le monde entier est à présent frappé par des émeutes et des troubles aussi peu spontanés que les révolutions de couleur. Tandis que Donald Trump gracie les émeutiers du Capitole, il est confronté à une insurrection en Californie qui réunit des manifestants téléguidés par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, par le Parti Socialiste et pour la Libération, courroie de transmission de la Chine, et en lien financier avec l'homme d'affaires Neville Roy Singham installé à Shanghai. Et à cela, il faut ajouter la Coalition pour les droits humains des immigrants, copieusement subventionnée par l'État de Californie et par l'ex-pouvoir fédéral Biden. Des réseaux d'influence multiples et en perspective, une implosion future de la nation étoilée.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous quittons un moment les cadavres de l'oncle Sam, l'ascenseur du mensonge, pour une rediffusion durant le mois d'août de chroniques qui vous avaient régalé en leur temps. Nous commencerons par les filles bordelières et les grandes horizontales. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm